Alors effectivement, au premier abord, la Bible est un livre assez épais, c'est vrai. Mais elle contient un grand message qui ne vient pas des hommes, mais qui vient de Dieu lui-même. Et c'est ce message que j'aimerais qu'on regarde cet après-midi. Alors la question qu'on va se poser, c'est que dit Dieu dans la Bible? Qu'est-ce qu'il a à dire pour moi? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Alors beaucoup d'hommes ont écrit des livres sur Dieu, ou beaucoup d'hommes ont écrit des livres sur des hommes. Mais nous, nous voulons savoir ce que Dieu lui-même dit de lui et ce qu'il dit des hommes, c'est-à-dire de nous. On ne veut pas regarder d'autres livres, on veut regarder la Bible, la parole de Dieu. Alors, on ne va pas lire toute la Bible, bien sûr, hein, même si c'est passionnant, ce serait un peu long. Mais on va essayer de regarder les deux grands thèmes de la Bible, Dieu lui-même et puis l'humanité, l'homme, vous et moi. Alors, premièrement, la Bible nous parle de Dieu. Dieu nous parle de lui-même. Il est intéressant de noter que le premier verset de la Bible dit, donc Genèse 1:1 dit, au commencement, Dieu. Et c'est frappant de voir que la Bible ne commence pas par essayer de prouver l'existence de Dieu. La Bible commence par affirmer l'existence de Dieu. Dieu existe. Il est. Dieu est. Il y a un verset dans les psaumes, le psaume 90:2, qui dit, avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Dieu nous dit qu'il a toujours existé, qu'il est éternel. Il n'a ni commencement, ni fin. Il nous dépasse, hein. Nous, on a un raisonnement humain, et tout ce qu'on connaît a un début et une fin. Mais Dieu, il est au-dessus de toute chose. Il n'a ni début, ni fin. La Bible dit aussi dans un autre psaume, le psaume 83, verset 19, il est dit qu'il sache que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Le Très-Haut. Il est aussi dit que Dieu est tout-puissant. Et c'est très important de saisir ça parce que Dieu, le Dieu de la Bible, n'est pas un demi-dieu. Il n'est pas un petit Dieu. Il n'est pas un sous-Dieu même, où ce n'est pas le soleil, ce n'est pas un arbre, ce n'est pas une création. Dieu est au-dessus de tout. Il est le Très-Haut, il est la divinité absolue, celui qui est incréé. Et finalement, je pense que tout être humain a quelque part au fond de lui cette conception d'un Dieu qui dépasse tout, qui est tout à fait étranger à ce que nous connaissons, qui est plus grand, plus haut, plus excellent, une divinité absolue. Alors j'ai lu dans un livre un témoignage, on remonte bien longtemps, on remonte au temps des Incas. Et dans les Incas, il y avait un empereur Inca qui s'appelait Pachacuti. Et donc la religion Inca, c'était la religion à Inti. Inti, c'est le soleil, hein, c'est le dieu soleil. Il vénérait le soleil. Et cet empereur qui s'appelle Pachacuti, il s'est posé des questions et il s'est dit, mais on est en train d'adorer le soleil, mais le soleil, s'il y a un nuage, il est voilé. Est-ce qu'on peut considérer que le vrai Dieu peut être voilé juste par un nuage? C'est pas logique. Il s'est dit aussi, son raisonnement, c'était aussi que finalement, le soleil dispense des rayons, la lumière, sur une partie seulement des hommes, pas sur tous les hommes en même temps. Mais si c'est Dieu, il devrait pouvoir éclairer partout en même temps, c'est pas logique non plus. Et donc, il en est arrivé à la conclusion qu'il y avait un vrai Dieu qui devait être autre, qui devait être plus grand, qui devait être au-dessus de toute la création. Et il a fouillé dans la mémoire des ancêtres du peuple Inca. Et il a trouvé un Dieu qui correspond à ses critères. Ce Dieu s'appelle Viracocha. Alors, il a essayé, à son époque, de faire une révolution religieuse et de faire passer, en fait, de détruire les cultes à Inti, donc ce fameux dieu soleil, et tous les autres dieux qu'ils avaient, parce qu'ils n'en avaient pas qu'un, c'était le principal, et de revenir au vrai Dieu, au seul Dieu, celui qui est unique, celui qui est au-dessus de toute chose, qu'on ne voit pas, qui est invisible, hein, éternel. Alors il n'a pas réussi parce qu'il y a des conquistadors qui sont arrivés en Amérique du Sud et qui ont finalement arrêté cela. Mais on a cette pensée d'un Dieu qui est au-dessus de toute chose, qui est la divinité absolue. Alors justement, hein, dans le Nouveau Testament, cette fois en Jean 4, 24, il est dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, il est invisible. S'il est invisible, on ne peut pas le représenter. C'est impossible. Donc Dieu nous dit de lui-même qu'il est esprit, immatériel, qu'on ne peut le représenter. Et d'ailleurs, le dieu Viracocha chez les Incas était un dieu qu'on ne peut pas représenter. Et pour ceux qui étudient un petit peu les mythologies, les religions anciennes, on retrouve quasiment à chaque fois un dieu qu'on ne peut pas représenter. On n'a pas le droit, parce qu'il est invisible. Et c'est le vrai Dieu. Ensuite, dans les psaumes toujours, psaume 99, verset 9, il est écrit « Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel notre Dieu. » Et puis dans Habacuc 1, 13, il est écrit aussi que, en parlant de Dieu, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Ce que Dieu nous dit de lui-même, c'est qu'il est saint, il est pur, il est parfait. En lui, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas la pensée du mal, il n'y a pas la pensée de faire du mal à qui que ce soit même. Dieu ne conçoit pas le mal, ce que la Bible appelle le péché, c'est-à-dire la désobéissance, c'est-à-dire transgresser la loi de Dieu. Et on va lire justement Exode 20. Tout le monde pratiquement a entendu parler des 10 commandements. Et Dieu a donné cette liste pour qu'on comprenne aussi à quel point il est au-dessus de nous, à quel point il est parfait, à quel point il est d'un standard élevé, excellent. Alors, Exode 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus basses que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » On va sauter au verset 12. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Verset 13. « Tu ne tueras pas. » Verset 14. « Tu ne commettras pas d'adultère. » Verset 15. « Tu ne déroberas point. » « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, sa servante ou son bœuf, ni son âne, ou aucune chose qui appartienne à ton prochain. Dieu nous donne une loi qui est excellente. Et le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, a expliqué la loi telle qu'elle est réellement. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus a dit que si en même en pensée, on convoitait quelque chose, on avait déjà commis le vol s'il s'agit d'un objet, un adultère s'il s'agit d'une femme ou d'un homme, suivant le cas si on est une femme ou un homme. Le Seigneur Jésus a dit que si dans notre tête, en pensée, on pensait du mal de quelqu'un, on avait déjà commis un meurtre envers cette personne. Donc c'est quelque chose qui est, on peut dire, une loi qui est étrangère à l'homme, qui est trop haute pour l'homme. Elle est parfaite. Et Dieu nous révèle par là qu'il est parfait, qu'il est d'une pureté inégalable. Inégalable. Il est dit aussi dans Nombre 14, 18, il est écrit « L'Éternel, Dieu, est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. » Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Quelqu'un qui est coupable aux yeux de Dieu. Et nous voyons ici la justice de Dieu. Dieu est juste. Quand nous transgressons la loi de Dieu, Dieu doit nous punir. C'est sa justice. Et Dieu est absolument juste. Il ne laissera pas les péchés impunis. Et nous, en tant qu'êtres humains, je pense qu'on a aussi cette soif de justice. Cette soif de justice. Et la bonne nouvelle, ou la mauvaise nouvelle suivant les cas, c'est que Dieu punira toute injustice sur terre. Il viendra un jour, nous dit la Bible, où toutes les injustices seront punies par Dieu. Nous passerons devant le tribunal de Dieu et Dieu condamnera toute injustice. Il y a une autre facette de Dieu, une autre qualité de Dieu que nous aimons beaucoup, et c'est l'amour. Il est écrit dans 1 Jean 4,16 « Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. » Et si Dieu est juste, s'il est saint, s'il est parfait, il est aussi amour. Il est aussi amour. Et je ne sais pas ce que vous pensez de Dieu, mais je sais que Dieu vous aime. Ça, c'est une réalité. La Bible l'affirme. Dieu vous aime tel que vous êtes. Il n'aime pas vos péchés, il n'aime pas toutes les mauvaises choses que vous faites, mais vous, votre personnalité, qui vous êtes, il vous aime. Il vous aime de tout son cœur. Alors, l'erreur, je dirais, la plus classique, consiste à croire qu'un Dieu qui est si parfait, si excellent, si élevé, si éternel, soit si loin de nous, soit très très loin de nous. Ça, c'est l'erreur classique. On se dit un Dieu qui est si bon, si parfait, si grand, si tout-puissant, si très haut, il peut que être très loin de l'homme et ne pas se soucier de lui. Mais c'est totalement faux. C'est totalement faux. La Bible nous dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour de Dieu, c'est un amour qui se donne. Il l'a prouvé. Il n'est pas resté inaccessible. Il est venu chercher l'homme. Il y a aussi quelque chose à noter, c'est que dans la Bible, Dieu n'est pas une idée ou une philosophie ou une conception. Dieu est une personne. Il est une personne réelle qui existe, qui a des sentiments et qui vous aime. Dieu est venu sur la terre en Jésus-Christ pour nous sauver des flammes de l'enfer. C'est quelque chose de concret, de réel. On va y revenir par la suite. Alors bien sûr, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur Dieu, mais on n'a pas tout le temps qu'on veut. Et je voudrais maintenant qu'on regarde ce que Dieu dit de nous, êtres humains. Et normalement, ça va un peu plus vite, parce qu'on est moins, on est plus limité que Dieu. Et on trouve une phrase, un verset dans la Bible qui peut résumer tout ce que Dieu a à dire de nous. Et elle va s'afficher derrière, normalement, voilà. Donc c'est Romains 3,23. Il est écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Voilà, c'est le constat, c'est le bilan de l'humanité en une phrase. « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Donc, le péché, c'est quoi ? Bien, c'est toute désobéissance à la loi de Dieu. Nous avons vu les 10 commandements. Jésus-Christ a expliqué que même en pensée, on transgressait cette loi de Dieu. Eh bien, à chaque fois qu'on transgresse la loi de Dieu, on commet un péché. Je dois préciser qu'aux yeux de Dieu, il n'y a pas de petit, de grand péché. Un péché est un péché. Quand on pêche devant Dieu, on mérite l'enfer, peu importe le péché qu'on fait. Il est dit dans la parole de Dieu que si on transgresse un seul des commandements, on transgresse tous les commandements. Tous sont transgressés. Et on oublie souvent le premier commandement. Dans le monde, si on parle des 10 commandements, on va dire « oui, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, etc. etc. » Mais le premier commandement, finalement, c'est « tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Celui-là, on l'oublie, mais on est coupable tout de suite. Donc ça, c'est le péché. Donc on a tous péché. Et la conséquence, nous dit ce verset, c'est que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous ne pouvons pas rentrer dans la présence de Dieu. Ça veut dire que nous sommes rejetés loin de Dieu. Ça veut dire que notre destinée, malheureusement, c'est l'enfer. Un autre verset dit, il ne sera pas affiché celui-ci, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. » Ce que veut dire ce verset, c'est que nos péchés montent une barrière entre nous et Dieu. Ce péché nous coupe de Dieu, de sa présence. Alors Dieu ne s'embarrasse pas de détails, hein, quand il nous parle, il va droit au but, parce que ce qui l'intéresse, c'est le salut de notre âme, pas autre chose. Le salut de notre âme. Et finalement, la grande question à laquelle répond la Bible, c'est celle-ci. Comment réconcilier un Dieu si parfait, si pur, avec une créature si corrompue, désobéissante, orgueilleuse, et qui a transgressé de nombreuses fois la loi qu'il nous a donnée? Ça, c'est la grande question de la Bible. Alors, si vous étudiez un petit peu les religions, toutes les religions du monde vont finalement vous proposer un même chemin, et il s'agit du chemin des œuvres. Le chemin des œuvres, c'est-à-dire que on va vous dire, il faut faire tant de prières par jour, il faut faire des sacrifices dans votre vie, il faut renoncer, il faut essayer de s'améliorer, il faut faire le vide en soi, faire de la méditation, essayer par tous les moyens qu'on peut de se rapprocher de Dieu, de gagner son ciel, gagner son ciel. Finalement, vous pouvez étudier toutes les religions, vous retrouvez toujours cette notion que nous devons faire des choses, des œuvres, pour gagner notre ciel. Pour gagner, alors, selon les religions, ce n'est pas forcément appelé le ciel. Hein. Dans le bouddhisme, c'est un peu le nirvana, le grand tout, le néant. Pour les catholiques, c'est le ciel. Pour les musulmans, pour l'islam, hein, c'est le ciel aussi, ils appellent ça le ciel. Mais voilà, on doit toujours faire des choses pour gagner le ciel. Et nous devons dire, nous devons préciser que dans la Bible, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Alors, le verset va s'afficher derrière. La Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc là, la Bible est claire. Dieu nous dit, laissez tomber, arrêtez de faire tous vos efforts, vous n'y arriverez pas. C'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, c'est par la grâce. Qu'est-ce que c'est cette grâce ? Cette grâce, c'est le don, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Cette grâce, c'est le sang qui a coulé sur la croix quand Jésus-Christ a offert sa vie. Voici ce que nous explique la Bible. D'un côté, on a ce Dieu qui est parfait, qui est pur et qui est saint. De l'autre côté, on a la créature de Dieu, on a l'homme qui est corrompu, qui a transgressé la loi de Dieu, qui est esclave, esclave du mal. Et entre les deux, on a un abîme. On a un abîme que l'homme ne peut pas franchir. Impossible. Un verset va s'afficher encore. Romains 1, 18, il est dit que « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. » Donc à chaque fois que nous péchons, nous amassons de la colère au-dessus de notre tête. Dieu doit nous juger. Et c'est ce qui crée cet abîme entre nous et Dieu. Nos péchés, bien sûr. Dieu étant parfaitement juste, il doit nous punir pour nos péchés. Et la condamnation repose sur nous. Nous méritons l'enfer pour toutes les fois que nous avons désobéi et transgressé à ce que Dieu nous demande. Mais justement, ce que dit la Bible, c'est que dans son amour, ce Dieu qui est parfait, qui est inaccessible à l'homme, il s'est rendu accessible. Il a franchi lui-même le précipice, cet abîme. Il l'a franchi en la personne de Jésus-Christ. Il est dit que Jésus-Christ est venu vivre sur terre, c'est Dieu manifesté en chair. Dieu lui-même a marché sur la terre en Jésus-Christ. Et il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour que nous puissions vivre. Alors ça paraît folie. Ça paraît folie aux yeux des hommes. Un homme qui meurt, soi-disant, pour nous racheter. Mais ce n'est pas un simple homme. Jésus-Christ est Dieu autant qu'il est homme. Il y a ce beau verset, c'est Jean 3,16. Il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est-à-dire Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ou alors un autre verset, que j'ai déjà cité, je crois. Voilà. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alors dans son amour, Dieu, en la personne de Jésus-Christ, a accepté de subir la colère que nous méritions à cause de nos péchés. Et il a pris toute cette colère sur lui à la croix. Vous savez, c'est un peu comme un paratonnerre. La foudre doit tomber, et la foudre doit tomber sur chacun d'entre nous à cause de tous les péchés que nous avons amassés, toutes les mauvaises choses, toutes les mauvaises pensées que nous avons eues, eh bien, la foudre doit tomber sur nous. Mais Jésus-Christ, quand il était sur la croix, il a accepté de prendre tous nos péchés, toutes nos fautes. Et la foudre qui devait tomber sur nous a été déviée. Elle est tombée sur lui, comme un paratonnerre. Elle est tombée sur Jésus-Christ, parce qu'il nous a aimés. Parce que le salaire de nos péchés, c'est la mort éternelle, l'enfer. Eh bien, nous devons savoir, et c'est le message de la Bible, que Jésus-Christ a payé déjà ce salaire. Lui le juste, lui qui était pur, qui était innocent, il est mort à notre place. Et il est ressuscité des morts. Ça, c'est la bonne nouvelle aussi. Hein. Il n'est pas resté mort. Alors, puisque Dieu a réglé cela, puisqu'il a envoyé Jésus-Christ payer pour nos péchés, il reste une dernière question à aborder pour que le message de la Bible soit complet. Cette question, c'est: qu'est-ce que Dieu nous demande? Que demande Dieu à l'homme maintenant, puisque Jésus-Christ a payé pour les péchés? Alors, j'ai choisi plusieurs versets dans la Bible où Dieu dit clairement à l'homme ce qu'il attend de lui. Et voilà, Dieu parle à l'homme et il lui dit: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Donc là, c'est solennel. Hein. C'est solennel. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie. Et la réalité des choses, c'est que puisque Jésus-Christ est mort pour payer pour nos péchés, Dieu nous demande maintenant bien de choisir de croire en Jésus-Christ, de croire en la vie et non en la mort. Parce que si nous n'y croyons pas, si nous rejetons le sacrifice de Jésus-Christ, si nous foulons aux pieds le Fils de Dieu qui est venu mourir pour nous par amour, alors notre seule destinée sera l'enfer. Mais si nous voulons le croire de tout notre cœur, placer toute notre confiance dans ce sacrifice, alors Dieu nous donne la vie et la vie éternelle. J'ai mis une image pour symboliser ça, hein, mais on a deux portes. Et finalement, on a une porte qui donne sur l'enfer et une porte qui donne au ciel. Laquelle des deux portes vous allez choisir? J'ai choisi d'autres versets qui disent la même chose, hein, si tu veux. Voilà. Le premier verset, en Actes 17, 30 à 31, il est dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Ou encore, Romains 4, 5, à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, celui qui justifie l'impie, c'est Jésus-Christ, sa foi lui est imputée à justice. C'est-à-dire que Dieu le déclare juste, pardonné, purifié. C'est comme si on a un casier judiciaire. Notre casier judiciaire est plein de tous nos péchés. Et Dieu l'a devant lui. Mais le jour où on décide, oui Seigneur Jésus, tu es mort pour moi, je le crois de tout mon cœur et je te demande pardon, sauve-moi. Ce jour-là, Dieu efface complètement notre casier judiciaire. Il est vierge. Il nous impute notre foi à justice. C'est ce que ça veut dire. Et puis le dernier verset, Jean 3, 36, en dessous. Celui qui croit au Fils, Jésus-Christ, a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le message de la Bible, eh bien, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Jésus-Christ a payé pour vous. Il a payé pour moi, il a payé pour nous, il a payé pour l'humanité. La condamnation que chacun d'entre nous mérite à cause de nos péchés, à cause de nos transgressions envers Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité des morts. Il est vivant aujourd'hui. Et que si aujourd'hui, on s'approche de lui par la foi, on lui demande de nous sauver, on croit de tout notre cœur qu'il a payé pour nous il y a 2000 ans sur cette croix, alors la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous sauve de l'enfer. Il nous sauve de l'enfer pour l'éternité. Et nous avons cette assurance, comme l'a témoigné ce jeune tout à l'heure, nous avons cette assurance que nous irons au ciel et que nous serons pour toujours en la présence de Dieu. Il y a un verset qui va s'afficher aussi, il est dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu, si vous n'avez pas placé toute votre foi dans le sacrifice de Jésus-Christ et dans rien d'autre, la colère de Dieu est sur vous. Vous êtes sous la condamnation. Et si vous mourrez aujourd'hui, vous passez devant le grand tribunal de Dieu et vous êtes condamné pour l'éternité parce que vous n'avez pas voulu croire. Mais si vous avez cru en Jésus-Christ, si vous décidez maintenant, aujourd'hui, à l'instant présent, de placer toute votre foi en Jésus-Christ, entièrement, mort pour vos péchés, alors ce verset est une grande assurance, une grande consolation. C'est Dieu qui l'a dit. Dieu ne ment pas. Vous n'êtes plus sous la condamnation. Vous êtes passé de la mort à la vie et la vie éternelle. Alors, pour terminer, un dernier verset. Si nous sommes ici, si nous faisons cette conférence, c'est que nous avons un message de la part de Dieu. Ce n'est pas le nôtre, c'est le message de Dieu que nous transmettons. Le début de ce verset dit que nous sommes des ambassadeurs pour Dieu. Et le message que nous avons pour vous, le message, c'est que nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Parce que si vous n'êtes pas réconciliés avec Dieu, vous irez en enfer. De votre propre choix, parce que vous êtes conscient, vous êtes au courant, vous connaissez le message maintenant, c'est votre responsabilité. La dernière question que je vous laisse, c'est qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui même, à l'instant présent, de croire ce message et d'être sauvé? Qu'est-ce qui vous empêche? Nous allons prier.